Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations avec Gisèle Cage. Bonjour.
Bonjour Jean Gandou, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Okapi. Nous sommes heureux de vous retrouver en ces dimanches pour cette grande édition de votre journal. Sans plus tarder, découvrons ensemble les principaux titres de l'actualité. 2 novembre, une journée pour protéger les journalistes et dénoncer l'impunité. L'édition 2025 met en lumière les violences sexistes facilitées par l'intelligence artificielle contre les femmes journalistes tout en rendant hommage aux professionnels tués dans l'exercice de leur métier. Grève des enseignants à Niouzou. Depuis plusieurs semaines, les enseignants de la sous-division Niouzou 1 réclament 3 mois de salaire impayé. Leur mouvement de grève, rejoint par les élèves finalistes, met en lumière les tensions persistantes dans les secteurs éducatifs. Les autorités provinciales sont appelées à intervenir. Résolution 1325, une mobilisation renforcée au Kasaï oriental. Evelyne Mbata, coordonnatrice du réseau mondial des femmes baptiseuses de paix en mission à Mbujimaï pour appuyer les efforts locaux en faveur de la paix et de l'inclusion des femmes. Elle est l'invitée du journal. Restez à l'écoute. À la une aujourd'hui, c'est 2 novembre, le monde célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Chaque année, cette journée rappelle de nombreux journalistes tués dans l'exercice de leur métier, souvent dans des circonstances tragiques. En République démocratique du Congo, nous nous souvenons notamment de Serge Maéché et Didas Namujimbo de Radio Okapi, ainsi que Bapoua Mwamba parmi d'autres confrères disparus. L'édition 2025 met l'accent sur un thème d'actualité, sensibiliser à la violence sexiste facilitée par l'intelligence artificielle à l'égard des femmes journalistes. Jean Gandou nous éclaire sur l'importance de cette journée et les enjeux qu'elle soulève.
Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2013. Elle rend hommage aux journalistes Justine Dupont et Claude Vernon de RFI, assassinés au Mali le 2 novembre de la même année. Objectif de la journée, dénoncer les violences physiques, psychologiques et numériques contre les journalistes, combattre l'impunité des auteurs des crimes contre les professionnels de médias, promouvoir la liberté d'expression comme pilier de la démocratie et encourager les États à enquêter et poursuivre les responsables tout en protégeant les droits à l'information pour tous. Cette année, le thème est sensibiliser à la violence sexiste facilitée par l'intelligence artificielle à l'égard des femmes journalistes. Il est question de mettre l'accent sur des menaces numériques dont le harcèlement genré et la désinformation ciblée. Notons que l'instauration de cette journée vise aussi à mobiliser les médias, les plateformes, les écoles de journalisme et la société civile pour renforcer la sécurité des femmes journalistes. À savoir qu'à travers le monde, les journalistes sont de plus en plus exposés à des menaces disproportionnées. Ce sont notamment les exécutions extrajudiciaires, les tortures, les détentions arbitraires ainsi que le harcèlement en ligne.
Justice au Nord Kivu, plus de 200 nouveaux avocats ont prêté serment ce vendredi à Beni, chef-lieu temporaire de la province. Initialement prévu pour le 22 février dernier à Goma, la cérémonie avait été reportée suite à l'occupation de la ville par le rebelle de l'AFC M23 fin janvier. Après 9 mois d'attente, ces jeunes professionnels du droit ont enfin pu franchir cette étape cruciale de leur carrière. Mais malgré cette avancée, de nombreux défis restent à relever pour ces nouveaux avocats confrontés à une réalité professionnelle complexe. Rosalie Zawadi nous en dit plus.
Ils sont au total 234 nouveaux avocats à avoir prêté serment vendredi devant les bâtonniers de l'ordre du Nord Kivu, maître Fazil Apalouku César. Un soulagement pour ces jeunes professionnels. Cependant, plusieurs interrogations persistent quant au début de leur carrière, comme l'indique ici maître Olivier Ndoulé, avocat au barreau du Nord Kivu.
Comment est-ce que ces avocats non seulement vont commencer à prester, c'est-à-dire à s'initier à ces métiers, mais aussi comment est-ce que leur survie qui devrait dépendre au moins des honoraires va être assuré au-delà, si vous voulez, de cette prestation de serment. Parce que nombreux d'entre ces avocats vont retourner, certains soit à Goma, d'autres dans les villes ou les pays où ils se sont exilés à cause de cette situation sécuritaire, ou dans d'autres provinces plus éloignées, non seulement de leur maître de stage.
Ces jeunes avocats s'interrogent également sur la question de leur période de stage. Doit-elle être comptabilisée à dater du jour de la prestation des serments ou bien à partir de la date où ils commenceront effectivement leurs activités? Beaucoup d'entre eux se retrouvent en effet dans un contexte spécial où il leur sera difficile d'être encadré compte tenu de la situation actuelle qui traverse la province. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Okapi.
Ituri, arrestation dans le secteur minier. Le chef de division provinciale des mines et de la géologie a été interpellé ce samedi à Bunia par l'auditorat supérieur militaire. Selon des sources judiciaires, cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur l'octroi illégal d'autorisation d'exploitation de l'or à des expatriés et d'autres opérateurs économiques. Plusieurs organisations de la société civile saluent cette initiative, estimant qu'elle pourrait contribuer à rétablir l'ordre dans un secteur souvent pointé du doigt comme source de financement des groupes armés. Martial Kizabiamungu nous en dit davantage.
Les chefs de division provinciale de mines et géologie, Saïdi Mounyanya, a été interpellé l'après-midi de samedi, puis mis au cachot de l'auditorat militaire à Bounia. Selon l'auditeur supérieur, le patron de mines à Ituri est poursuivi à ce stade pour des raisons d'enquête dans les dossiers relatifs à l'exploitation illégale de l'or dans la zone des Mabanga ou des opérations militaires ont concouru au démantèlement du bastion des miliciens des groupes Zaïre alliés au CRP de Thomas Lubanga. Toujours selon la même source, il est également accusé d'octroyer aux expatriés chinois l'autorisation d'exploitation de l'or dans un carré minier dans les Bambounia. Une exploitation qui a occasionné la mort de 3 jeunes par des hommes armés non identifiés vendredi dernier alors qu'ils revenaient de ces sites miniers tenus par les Chinois. Des structures des jeunes souhaitent que la justice aille jusqu'au bout. Christian Charoui, coordonnateur des jeunes leaders de l'Ituri.
Que la justice doit aller jusqu'au bout. Ce secteur est à la base aussi de l'insécurité dans notre province, suite à sa mauvaise gestion.
Nous n'avons pas encore eu la réaction de la personne incriminée ou de son avocat. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Tanganyika, tension dans le secteur de l'éducation. La situation reste préoccupante dans la sous-division de l'enseignement Nyunzu 1, situé dans le territoire de Nyunzu. Depuis plusieurs semaines, les enseignants sont en grève, réclamant le paiement de 3 mois de salaire impayé. La semaine dernière, leur colère s'est exprimée à travers des manifestations violentes. Quelques jours plus tard, les élèves finalistes ont également rejoint le mouvement, exprimant leur inquiétude face à l'incertitude qui entoure leur année scolaire. Contacté ce dimanche par Radio Okapi, le sous-préfet de Nyunzu 1 affirme que la solution est attendue des autorités provinciales. Paulin Munanga nous apporte plus de précisions.
Mardi dernier, les élèves finalistes se sont mobilisés. Ils ont organisé une marche de colère pour dénoncer la grève de leurs enseignants. D'après ces élèves, la grève occasionne un retard par rapport au contrôle de leurs dossiers. Des sources locales rapportent que la police est intervenue en tirant plusieurs coups de feu et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Le sous-préfet de l'EPST Nyunzu 1 annonce que les élèves ont incendié 2 écoles, à savoir l'école primaire Nyembo Amisi et l'institut Ushindi. Le 20 octobre dernier, les enseignants ont manifesté pour revendiquer leur salaire de 3 mois, celui d'août, de septembre et d'octobre. Ils avaient vandalisé les bureaux du groupe scolaire Mulongo et la résidence du sous-préfet de l'EPST Nyunzu 1. Quelques enseignants avaient été blessés. Craignant pour sa vie, le sous-préfet de l'enseignement Nyunzu 1, Ernest Mwamba, a préféré quitter précipitamment le territoire de Nyunzu. Il indique que la solution pourrait provenir des autorités provinciales. Contacté, l'agent payeur d'Afriland Bank à Nyunzu qui paye les enseignants dit n'avoir aucune réponse à ce sujet. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
À Zongo, dans la province du Sud Ubangi, les fonctionnaires dénoncent le non-paiement de leur salaire depuis 2 mois. Selon leur témoignage, la banque centrale affirme avoir déjà transféré les fonds à la banque Afriland via son agence locale des Zongo. Pourtant, les agents publics ne comprennent pas pourquoi ils n'ont toujours pas été servis alors que leurs collègues de Guémena et Badolite ont déjà perçu leur rémunération. Contacté à ce sujet, Atou Mohémé Alidor, l'un des fonctionnaires concernés, en appelle aux autorités compétentes pour une intervention urgente afin de résoudre cette situation préoccupante. Il s'est exprimé au micro d'Askan Zibiatayoro.
Ça fait déjà 2 mois qu'on est impayé et que la banque, la Finlande, via FEDEBES, ne donne que des réclamations. On est parti même vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau de la Banque Centrale. La Banque Centrale nous a dit qu'il avait déjà décaissé l'argent depuis. Pour eux, ils attendent de nous décaisser la 4e trimestre. Alors, si longtemps qu'ici à Zongo, on a un retard d'un paiement de 2 mois, on ne comprend même pas. Ici à Zongo, on est même parti vérifier. Il y a eu déjà des retraits au niveau de la banque. Et la banque a retiré de l'argent pour aller payer ces de Guadobo. Jusque là, on n'a même pas reçu notre argent. 2 mois déjà d'impayement, on a la même listing de ces de Guimino. Et ceux de Guimino ont été déjà payés, mais ceux de Zongo n'ont pas encore reçu leur argent. Ça fait déjà 2 mois et nous plaidons aux autorités de nous aider qu'on soit payés. La société civile a fait même des démarches pour cette cause, mais jusque-là, on n'a pas encore reçu. Nous souffrons vraiment.
Malgré les démarches entreprises, il n'a pas été possible d'obtenir des éclaircissements du côté de l'agence locale de la Banque Afrilande à Zongo. Il n'est désormais plus acceptable de répudier une femme ayant subi de violences sexuelles dans la province du Kasaï oriental. C'est l'engagement pris par le chef coutumier garant des traditions locales. Les chefs du groupement des Bénins Chimba dans les territoires de Katanda l'a confirmé ce samedi lors d'un atelier consacré à la rédaction de la résolution 1325 organisée par le Centre féminin des formations et d'informations pour le développement CFID. Les autorités coutumières présentes ont rappelé que cette problématique avait été débattue et résolue l'année dernière à Mbujima et à Lubumbashi à l'occasion du forum soutenu par 2 agences des Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour la population. Ces initiatives ont notamment favorisé la réunification familiale et la réinsertion socio-économique des réfugiés et déplacés internes dans l'espace du Grand Kasaï. À ce sujet, écoutons le chef coutumier Christophe Kachala Benachimba au micro d'Esther Ndalafina.
J'avais été membre des chefs coutumiers qui ont été invités à un atelier ici à Mbujimayi et après on a été invités à Lubumbashi. Pour toute la République, il y avait des chefs qui étaient venus de tous les coins de notre pays. On a travaillé, on a trouvé que pour une femme qui a été violée, donc par force, le viol a été toujours accompagné par la force. Est-ce que cette femme est à répudier ou bien il faut qu'elle les réintègre? Elle doit revenir dans sa famille conjugale. On ne peut plus encore aggraver la situation. On doit alléger la tâche à une telle femme. Si les faits sont bien établis que les viols ne dépendaient pas de sa volonté, s'il faut qu'elle paye, sa belle famille ne pourra pas être trop exigeante. Elle pourra demander moins que ce qui devrait être demandé pour que la femme réintègre dans son tronc conjugal. On la pardonne, comme la coutume quand même voudrait qu'elle paye quand même quelque chose. C'est pourquoi, au lieu d'une chèvre par exemple, on peut lui demander même une petite poule.
La ville de Kindu, dans la province du Maniema, accueille ce lundi 3 novembre la 2e édition de la conférence dédiée au secteur des mines, de l'énergie et des infrastructures. Cette rencontre vise à mettre en valeur les atouts économiques de la région dans ces domaines stratégiques dans le but d'attirer les investisseurs et dynamiser le développement local. À la veille de l'ouverture officielle, Florence Kiza dresse le tableau de cette conférence qui place le bien-être des populations au centre de ses préoccupations.
Le Maniema est une province riche en ressources minières, en potentiel hydroélectrique et solaire. Son sous-sol regorge notamment les diamants, les coltans, la cassitérite, l'étain et l'or. Ce potentiel économique fait que cette province est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la diversification économique de la République démocratique du Congo. Cependant, elle fait toujours face à de nombreux défis liés, entre autres, au déficit en énergie électrique capable de booster le développement des infrastructures. Au-delà de tout, le Maniema est une province enclavée et ses infrastructures routières sont délabrées et la population a un faible accès aux services sociaux de base. Il convient de noter que l'exploitation minière artisanale reste la principale activité minière dans la province du Maniema en l'absence d'une exploitation industrielle significative. Bien que cette activité artisanale soit intense, elle ne favorise cependant pas le développement de la province car cette activité n'est pas bien structurée, ce qui constitue un défi majeur. Actuellement, l'essentiel de l'économie du Maniema est centré sur le mine. Dans le Maniema, on trouve aussi des cours d'eau. Des dragues sont visibles sur les grandes rivières de la province, mais la mobilisation des recettes reste très faible dans ces sous-secteurs en raison du manque de moyens alloués aux services de l'État chargés du contrôle et de l'encadrement. D'après les organisateurs de cette conférence, ce sont ces différents problèmes et tant d'autres qui seront examinés au cours de cette 2e édition de la conférence qui ouvre ses portes ce lundi. Plusieurs personnalités du monde scientifique, économique, économiques et politiques y sont aussi attendus. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Sans courroux, jeudi dernier, le président de l'Assemblée provinciale, Lambert Makodjo, a donc annoncé sa démission au cours d'une plénière consacrée à l'examen d'une pétition déposée contre lui et son vice-président. Les initiateurs de cette pétition les accusent de mauvaise gestion financière et de blocage des projets de développement dans la province. Après avoir présenté ses moyens de défense, Lambert Makodjo a décidé de jeter l'éponge, invoquant sa volonté de préserver la stabilité des institutions provinciales. Ces décisions marquent la fin d'une série de tensions qui ont récemment secoué l'organe délibérant du Sankoro. Santé à Bukavu, l'hôpital général de référence mène une campagne de prise en charge des patients atteints d'hydrocéphalie en utilisant une technique chirurgicale avancée qui ne laisse aucune cicatrice visible sur le corps. L'hydrocéphalie est une affection causée par une accumulation excessive de liquide dans le cerveau, entraînant une augmentation du volume crânien, notamment chez les enfants. À moins de 5 jours du début de cette initiative, l'hôpital a déjà enregistré 37 cas, dont la majorité sont des enfants. Parmi eux, 28 patients ont été jugés éligible pour une intervention chirurgicale. Le docteur Safari Paterne, neurochirurgien, revient sur les objectifs et les enjeux de cette campagne au micro de Jean Kassami.
La campagne de la prise en charge des hydrocéphalies par voie endoscopique a bien commencé depuis le mercredi de la semaine qui est en train de se terminer. Et elle va s'étendre jusqu'au mercredi prochain. Alors, l'hôpital n'a pas reçu de subsides pour financer cette campagne et donc on essaye de faire avec des moyens de l'hôpital et des malades. Alors, l'hôpital essaye de rendre accessibles les soins en baissant le coût, ce qui est déjà un ouf de soulagement pour les familles. Alors, ceux qui sont concernés, ce sont les enfants, beaucoup plus. Mais on peut aussi avoir des cas d'adultes qui souffrent d'hydrocéphalie. On fait d'abord le scanner et ça nous permet de sélectionner les malades qui doivent être opérés, puisque tous les malades ne sont pas éligibles à cette chirurgie. Certains doivent encore bénéficier de la dérivation, qui est l'acte la plus pratiquée.
Actualité internationale.
Ce dimanche, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé d'intensifier les frappes contre Hezbollah dans le sud du Liban. Ces déclarations interviennent au lendemain d'une attaque israélienne ayant fait 4 morts, selon le ministre libanais de la Santé. Dans un communiqué, Israël Katz a exigé que le gouvernement libanais respecte son engagement de désarmer le Hezbollah et de l'éloigner du sud du pays, accusant les groupes pro-iraniens de jouer avec le feu et le président libanais de traîner des pieds. Le ministre a également affirmé que les mesures de sécurité seraient renforcées, ajoutant « Nous ne tolérerons aucune menace contre les habitants du nord d'Israël ». Cette montée de tension survient dans un contexte de frappe régulière malgré les cessez-le-feu conclus en 2024 et alors que l'armée israélienne affirme avoir neutralisé plusieurs combattants de l'unité d'élite de Hezbollah, la force Al-Radwan, dans la région de Kafr Amman.
L'invité.
Kasaï Oriental, depuis la semaine dernière, Evelyne Mbata, coordonnatrice des programmes du réseau mondial des femmes bâtisseuses de paix en Afrique, séjourne en Mbujimayi. Elle est venue appuyer le travail du Centre féminin de formation et d'information pour le développement CFID, chargé d'accompagner la mise en œuvre des activités liées à la résolution 1325 dans la province du Kasaï Oriental. Au cours de sa mission, elle a rencontré les autorités provinciales afin de solliciter leur engagement dans l'application de cette résolution ainsi que dans le renforcement du réseau des femmes bâtisseuses d'épée. Evelyne Mbata, s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour Madame Evelyne Mbata.
Bonjour Madame.
C'est quoi le réseau mondial des femmes bâtisseuses de paix en Afrique?
C'est un réseau qui est basé à New York aux États-Unis, dans lequel vous retrouvez des Africaines comme moi, des Américains bien sûr, des femmes de l'Asie, de l'Amérique latine. On est alignés pour pouvoir parler d'une seule voix des besoins de paix à travers le monde, parce que lorsqu'on parle de conflits, les premières victimes victimes, ce sont malheureusement les femmes et les enfants et les jeunes. De plus en plus, nous attirons l'attention sur les effets négatifs de ces jeunes qui subissent, mais qui peuvent aussi être acteurs en temps de conflit. Donc, nous sommes un réseau qui vient soutenir les autres femmes, les femmes qui travaillent dans le secteur femmes paix sécurité, jeunes paix sécurité. On vient les soutenir afin que la voix porte plus haut. Donc, nous sommes là pour pousser nos autorités au niveau national et au niveau local pour qu'ils prennent la juste mesure de la valeur de la résolution 1325 et qu'ils puissent y mettre les moyens. Les plans nationaux de mise en œuvre de la résolution sont malheureusement très faiblement financés par les États et donc ça fait qu'il y a des soucis à les mettre en œuvre. Et donc, au bout d'un cycle, on ne sait pas correctement évaluer les effets. Mais heureusement, comme c'est une résolution qui est ouverte, donc toutes les actions qui se font par rapport à la participation, la prévention, la protection et le relèvement dans les pays en situation post-conflit, nous les comptabilisons comme autant d'acquis pour la mise en œuvre de la résolution 1325.
Quels sont les programmes développés par ces réseaux mondiaux des femmes bâtisseuses de paix?
L'objectif principal pour nous, c'est d'emmener cette résolution au niveau de la communauté. Et c'est ce que nous appelons la localisation que nous mettons en place partout dans les autres pays. Et ces actions s'accompagnent désormais de la budgétisation, donc des renforcements de capacités donnés aux acteurs pour qu'ils puissent être à même de suivre une fois qu'un budget est voté en faveur de la mise en œuvre de la résolution 1325. Nous parlons de beaucoup de sensibilisation, de quelques actions de relèvement qui se traduisent par des actions humanitaires que nous mettons en place à travers quelques pays. Nous avons fait l'exercice ici au nord et au sud Kivu dernièrement pour soulager les victimes du conflit qui frappe la RDC dans cette zone-là. Et nous travaillons aussi dans le cadre de la protection de l'environnement et c'est un programme sur lequel nous ciblons plus les jeunes qu'ils puissent comprendre la portée de la protection de l'environnement, surtout pour eux, pour leur futur. Donc il y a quand même plusieurs activités qui sont organisées selon quelquefois les besoins du projet lui-même globalement, mais aussi selon les besoins des pays dans lesquels nous sommes.
Les activités de vulgarisation et de sensibilisation exigent des moyens financiers. Pour la plupart des fois, les gouvernements présentent le visage des parents pauvres. Comment donc allons-nous atteindre les objectifs?
Bon, écoutez, nous, on fait avec les moyens qu'on a. L'espoir que nous avons, c'est que nous semons une graine et que nous espérons que des personnes qui, par exemple, assistent à ce genre de fora puissent aller en parler, mettre en œuvre ce qu'on a discuté. Donc, nous nous appuyons sur ça. Nous avons la chance aussi, dans chacune des formations que nous organisons dans les pays africains, d'avoir les partenaires, l'autorité locale, l'autorité centrale, qui participent à nos activités. Donc, nous savons que d'une manière ou d'une autre, l'information passe au niveau du gouvernement. Donc, nous nous appuyons sur ça. Nous appuyons aussi sur le fait que chaque pays est censé, au bout de l'année, faire un rapport sur les avancées, comme on le fait pour les ODD, comme on le fait pour Nexus ou, je ne sais pas, tous les autres programmes. Et nous comptons sur ça parce que nous savons que le travail qui est fait par la société civile est capitalisé dans ces rapports-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras. Ce sont des partenaires. Ils peuvent avoir des obligations autres en ce moment, mais nous voyons quand même la progression, surtout en RDC. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez un premier ministre, il faut reconnaître ça. Le nombre de femmes ministres qui augmente, il ne faut pas croire que c'est anodin. Ça a aussi un objectif. Les députés au sein de l'hémicycle, vous voyez que non seulement on augmente en nombre, mais de plus en plus en qualité aussi. Donc, nous espérons que ce genre d'activité contribue à l'atteinte des objectifs fixés par les gouvernants.
Madame Evelyne Mbata, je vous remercie.
Merci, le plaisir était partagé. Merci beaucoup.
C'était Evelyne Mbata, coordonnatrice des programmes du Réseau mondial des femmes bâtisseuses de paix en Afrique en séjour à Mbujimayi pour appuyer la mise en œuvre de la résolution 1325 au Kasaï oriental. Ce journal sur Radio Kapi s'achève ici. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Mise en onde, Alain Goy, coordination Jean-Gandou Kabongo, présentation Gisèle Cage. Retrouvez-nous en podcast sur radiokapi.net et sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram.